Place Info. France Info 20h, 21h, France Info, les informés, Saveria Rojec.
La rédaction de Charlie Hebdo réunit pour la première fois depuis les attentats de 2015. C'est aujourd'hui à Strasbourg l'explosion des blessures causées par les LBD et puis le début de la trêve hivernale. Le gouvernement qui annonce 14 000 places d'hébergement supplémentaires. C'est dans les informés avec ce soir Alexia Germont, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse, auteur de Réveillons notre Europe reconfirmée. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Auteur du Progrès est-il dangereux? C'est aux éditions Humaine Science. Et Lémy Kovacs, fondatrice, rédactrice en chef du média Ecopo. Et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la télé, canal 27 de la TNT. La rédaction de Charlie Hebdo réunie à Strasbourg aujourd'hui, c'est une première depuis les attentats de 2015. Un événement bien sûr sous haute surveillance. On va écouter tout d'abord, avant de vous faire réagir, une spectatrice qui était présente cet après-midi.
Ce qui s'est passé aussi, ça, le cœur a pris un coup, quoi.
Quasiment 5 ans après, vous y pensez encore à l'attentat et vous êtes là pour les...
Bah oui, parce que quand même, c'était des grands qui ont été, massacrés. Et ça, c'est quand même terrible. Oui, c'est un message du cœur, oui. Puis bon, c'est quand même chouette de voir, de les voir en vrai, ceux qui sont encore là.
Vous avez envie de leur dire quoi?
Ben, merci, bravo, continuez. Il faut pas se couler dans le moule de la société qui, bon, n'est pas toujours comme on voudrait, mais c'est pour ça que je suis là aussi, bravo, qui continue comme ils faisaient avant. Enfin, comme ils font toujours.
Arnaud Benedetti, c'est un message du cœur, nous dit cette dame.
Oui, enfin, c'est un symbole, surtout un symbole. Après 4 ans après le massacre, parce qu'il s'agit d'un massacre commis dans la rédaction de Charlie Hebdo, mais ça pose la question de la liberté d'expression plus largement aujourd'hui. C'est que, in fine, on est dans une société où la question de la tolérance et de la liberté d'expression se pose de plus en plus. Récemment, il faut se souvenir, Madame Agacinski n'a pas pu tenir une conférence dans une université à Bordeaux. Donc, je crois que c'est un vrai sujet, et au-delà du drame, bien évidemment, qui a marqué les consciences collectives dans le pays. Ce que nous dit aujourd'hui finalement le fait que la rédaction de Charlie Hebdo puisse se réunir au grand complet aujourd'hui, c'est que oui, on a le droit, la satire c'est une vertu démocratique, on a le droit de ne pas la partager, on a le droit de ne pas l'apprécier, mais il faut absolument la maintenir. C'est, disons, l'un des moteurs aussi du fait que l'on puisse vivre, je veux dire, ensemble de manière tolérante.
Alexia Germont, le choix de Strasbourg, une ville qui a également été marquée par les attentats, ça aussi c'est un symbole?
Oui, on est dans le même registre symbolique. C'est aussi la capitale, une des capitales européennes. Donc on peut voir beaucoup de symboles à travers le choix de Strasbourg, qu'il faut le rappeler quand même. L'équipe entière là intervenait à l'occasion donc du Forum mondial de la démocratie.
C'est surtout la première fois qu'ils étaient publiquement réunis.
Publiquement ensemble. Dans notre société qui est, je partage tout à fait ce qu'a dit Arnaud Benedetti, mais dans notre société qui est laïque et pluraliste, ça fait partie des droits que nous avons, non seulement la liberté d'expression bien entendu, mais au-delà de ça, le blasphème est autorisé, la satire est autorisée également. Il faut rappeler de ce point de vue-là que, là c'est l'ancienne avocate qui parle, mais le jugement en fait de 2007 qui avait été rendu sur les caricatures de Mahomet, de ce point de vue-là est extrêmement clair et cadre bien, c'est véritablement une leçon effectivement d'instruction.
Alexia Germont, vous nous dites c'est autorisé, pourtant certains médias font le choix aujourd'hui d'abandonner la caricature, le dessin de presse. C'est le cas du New York Times. Émilie Kovacs, le dessin de presse, la satire, la caricature aujourd'hui sont menacés.
sont menacés et pourtant font partie des médias, de la satire et fait partie de la liberté d'expression, fait partie de la démocratie. C'est pas la première fois que la démocratie est menacée. Il faut qu'elle se batte et qu'elle fasse en sorte que on puisse encore publier des satires, peu importe que ce soit provocateur ou pas, peu importe l'époque dans laquelle on est. Il faut défendre ça. Je pense que c'est important aujourd'hui.
Oui. On dit parfois aujourd'hui qu'on ne peut plus rien dire, qu'on ne peut plus rire de tout, que la subversion a laissé la place à la prudence. Votre opinion, Pierre Jacquemin ?
Oui, c'est vrai, il y a une part d'autocensure.
On est plus prudent aujourd'hui ?
J'ai le sentiment qu'on essaie d'être plus prudent. J'ai le sentiment aussi que Charlie Hebdo n'a pas renoncé à agiter les consciences, ou en tout cas à susciter des critiques aussi. Hein. C'est aussi l'objet d'une presse d'opinion. On a le droit de ne pas être d'accord avec ce que veut initier ou de ce que veut raconter, l'histoire que veut raconter Charlie Hebdo. Vous l'avez rappelé, effectivement, il y a la décision du New York Times d'abandonner les caricatures. Ça me paraît être extrêmement grave à l'échelle internationale, en tout cas, de voir qu'un pays comme les États-Unis, effectivement, décident d'abandonner ce format, en tout cas journalistique, qui est un format comme un autre, qui donne une information à travers une satire, à travers de l'humour parfois, de l'humour pinçant, de l'humour qui gêne, qui dérange, mais qui me paraît être nécessaire de sauvegarder, de défendre encore aujourd'hui.
Pierre Jacquemin, vous dites on est plus prudent aujourd'hui. Pourtant, il faut rappeler rien que la une cette semaine de Charlie Hebdo.
C'est pour ça que je disais ça,
voilà, avec Emmanuel Macron entouré de femmes voilées, et ce titre République islamique en marche, elle a beaucoup fait réagir. Arnaud Benedetti, Charlie ne peut survivre que dans la satire et l'ultra-provocation, j'allais dire.
Mais c'est son fond de marque. De toute façon, on ne va pas, balayer l'esprit d'un journal qui est basé sur une forme de provocation qu'on a le droit de ne pas partager, encore une fois. Donc, il n'y a rien de surprenant. Si Charlie intériorise finalement une forme de censure, Charlie n'existe plus, tout simplement.
20h10 sur France Info, l'essentiel de l'info avec Justine Dinchet.
La mort d'un militaire français au Mali, un soldat brigadier du 1er régiment de Spahis de Valence, âgé de 24 ans. Un engin a explosé sous les roues de son véhicule blindé. Ce matin, Emmanuel Macron salue le sacrifice de ce militaire tué dans l'accomplissement de sa mission. Nous restons sous le choc, penser à ce qu'elle a vécu nous déchire le cœur. Déclaration de la famille de Sophie Le Tan qui est sortie de son silence aujourd'hui à Strasbourg. 10 jours après la découverte du squelette de la jeune étudiante disparue l'an dernier dans cette affaire insuspecte. Jean-Marc Reiser a été mise en examen pour assassinat. Avis de tempête dans le sud-ouest et le centre de la France. 15 départements en alerte orange. Des Pyrénées-Atlantiques à la Vendée en passant par l'Allier. Les vents devraient forcir au fil de la nuit et atteindre un pic après 4h du matin avec des pointes allant jusqu'à 150 km/h. Attention aux vagues aussi sur le littoral atlantique. Un nouveau rassemblement anti-Pékin à Hong Kong. Des milliers de manifestants habillés en noir ont défilé malgré l'interdiction. La police a répondu en utilisant des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser la foule. Et puis en football, 12e journée de Ligue 1, le match entre Nîmes et Rennes, qui devait commencer à 20h, est reporté à cause de pluies diluviennes. 4 autres rencontres viennent de démarrer. Tout à l'heure, victoire de Marseille, 2-1 face à Lille. L'OM qui monte sur la 3e marche du podium du championnat.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Saveria Rojek.
Les rescapés du Bataclan qui appellent à sauver les Kurdes. Et hier, sur France Info, Céris, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, qui estime que les Kurdes méritent mieux que d'être traités comme cela. On va écouter Céris et puis vous réagissez tout de suite après.
Les Kurdes ont donné leur vie pour combattre ce fléau qui est ce terrorisme, qui est ce fascisme représenté par Daesh. Donc on ne les soutient pas suffisamment. Et quand on se bat contre ce genre de totalitarisme, il faut être solidaire. C'est pas très glorieux de n'être pas plus reconnaissant et de ne pas plus soutenir ce peuple qui a beaucoup fait pour terrasser Daesh. Et pas beaucoup de gens qui sont capables de terrasser Daesh, hein. Beaucoup s'y sont cassés les dents. Eux ont su le faire et ils méritent mieux que d'être traités comme ça.
Alexia Germont, Riss, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, qui nous dit les Kurdes méritent d'être mieux traités que cela. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Ah oui, très clairement. Et c'est vrai que c'est étonnant que ça soit Rice qui soit le plus audible sur cette question-là. On a vu tout au long du week-end dernier, d'ailleurs, hein, lorsque il y a eu la mort d'al-Baghdadi, on a bien vu finalement le côté extrêmement cynique, notamment des États-Unis, qui étaient prêts à revenir finalement, qui ont abandonné les Kurdes, qui ont laissé la voie libre. Et puis, dans ce cri du cœur, ce qui avait toujours été le cas, mais qui n'avait jamais été officiellement dit, on vient protéger les puits de pétrole et au passage, je fais ce que le peuple m'a demandé de faire, c'est-à-dire tuer quelqu'un qu'on avait vraiment sur la liste noire. Donc c'est très émouvant quand on lit la tribune, d'ailleurs. Je trouve que très émouvant.
Vous parlez d'une tribune publiée dans le Parisien par des rescapés, par 44 rescapés de l'attentat du Bataclan, parce qu'effectivement, Rice, le patron de la rédaction de Charlie Hebdo, lance cet appel aux Kurdes, ainsi que les rescapés des victimes du Bataclan. Émilie Kovacs, pourquoi ce sont les victimes des attentats et le patron de Charlie Hebdo qui en appelle à sauver les Kurdes?
Parce que ils ont souhaité prendre la parole parce qu'effectivement il y a un manque d'informations concernant les Kurdes et concernant leur défense et sur la scène internationale et dans les médias. D'ailleurs, on se demande pourquoi maintenant ça arrive que maintenant et pourquoi il y a une aussi faible couverture médiatique d'ailleurs. Donc eux l'ont fait parce que symboliquement c'était l'occasion à Strasbourg de le faire et je pense qu'ils ont bien fait tout simplement. Oui.
Faible couverture médiatique, Arnaud Benedetti, je vous vois sourire.
Oui, faible couverture médiatique, mais vous savez, la question kurde, elle existe depuis très longtemps. Hein. Je rappelle que le traité de Sèvres en 1919 avait donné le droit à l'autodétermination du peuple kurde.
Elle depuis, est particulièrement prégnante malheureusement, retrait des troupes américaines.
Non, mais d'abord, pourquoi c'est eux? Parce que eux, ils ont été victimes dans leur chair, donc ils se sentent certainement beaucoup plus concernés. Ils ont été sur la ligne de front, d'une certaine manière. L'autre aspect, ils ont parfaitement raison. C'est une faute à la fois morale et politique. Une faute morale, parce qu'en effet, les Kurdes ont été en première ligne contre Daesh. Ils ont perdu près de 30 000 hommes entre les morts et les blessés, c'est considérable. Les femmes, notamment, dont on a dit que le rôle était absolument essentiel dans la lutte contre Daesh. Et puis ensuite, c'est une faute politique, parce que on sait très bien qu'aujourd'hui, le risque que l'on court, c'est de finalement procéder à un appel d'air pour Daesh à nouveau, qui était cornérisé sur le terrain et qui il y a eu encore une centaine, je crois, de djihadistes qui se sont évadés. Donc c'est une faute à la fois morale et politique, et on aura à la fois vraisemblablement, comme le disait Churchill, le déshonneur et la défaite.
Vous êtes d'accord, Pierre Jacquemin?
Oui, je pense.
Est-ce que ce type d'appel peut servir à quelque chose? À quoi peut-il servir?
En tout cas, je pense qu'il est utile en ce sens que j'ai le sentiment que l'État français, en tout cas la manière dont la France gère le conflit entre la Turquie et le peuple kurde, ne me paraît pas être à la hauteur justement de ce que ont engagé justement les Kurdes, et vous l'avez rappelé effectivement, notamment les femmes qui se sont engagées dans le combat contre Daesh. Et c'est vrai que ce type de tribune, et il y a eu d'autres initiatives publiques en ce sens, qui appelaient justement l'État français, pas forcément à intervenir sur un plan militaire, il y a d'autres formes d'action, il y a des formes d'action de boycott économique que l'État français aurait pu engager. Les Kurdes se sentent totalement trahis, délaissés par la communauté internationale, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, mais la France particulièrement, parce qu'elle a eu un rôle, majeur justement auprès des Kurdes. Et donc je pense que cet abandon est symptomatique aussi de relations que la France ne veut pas perdre avec la Turquie. Et ça, c'est problématique de se dire qu'aujourd'hui les intérêts économiques sont supérieurs à l'intérêt de la vie de gens qui se sont battus contre justement le terrorisme et contre l'invasion turque et aussi le peuple kurde qui s'est battu.
Vous n'êtes pas d'accord, Alexa Germont?
Non, c'est pas que je suis pas d'accord. Je compléterai simplement. Il n'y a pas que les raisons économiques. Du point de vue européen, il faut quand même bien prendre conscience que la Turquie, face à l'Union européenne dans sa globalité, est quand même dans un chantage permanent aussi avec la réouverture des frontières. Donc c'est pour ça aussi qu'on a un statu quo avec une Union européenne qui est absolument tétanisée.
La question des réfugiés, la question migratoire qui sous-tend toute cette question.
Exactement, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on parle des Kurdes du point de vue médiatique, aussi parce que aujourd'hui il y a la question de savoir où jugés finalement et où vont se retrouver les terroristes qu'ils avaient réussi à mettre finalement à garder dans un certain nombre de camps et aujourd'hui ils sont dans la nature. C'est pour ça que la fin de la tribune est particulièrement intéressante, je trouve, parce qu'ils finissent en disant bien que les hommes, la classe politique sera finalement devant ses responsabilités, puisque l'histoire ni n'oublie ni ne pardonne. C'est très fort, hein, et c'est une très belle tribune de ce point de vue-là.
Justement, Émilie Kovacs, il y a une dette morale sur cette question des Kurdes.
Ça vous laisse en voix. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est très complexe parce que ça parle à la fois de politique intérieure en Turquie, ça parle de d'enjeux géopolitiques internationaux. Donc voilà, la position de la France. Est-ce que la France a vraiment un poids? Est-ce que on lui laisse ce poids-là sur la scène internationale? Je suis pas sûre. Je pense que derrière, il y a effectivement les Américains, les Turcs et les Russes dont on parle pas. Mais effectivement, est-ce que les Français peuvent faire quelque chose? Je suis pas sûre qu'on leur laissera faire quelque chose, en tout cas.
Arnaud Benedetti, c'est la réelle politique versus la morale?
Oui, enfin, la réelle politique, c'est malheureusement quelque chose qui n'est pas nouveau et qui a très souvent régi les relations internationales. On peut le regretter, mais c'est une réalité. Et je suis assez d'accord avec Pierre Jacquemin sur son constat. C'est que vraisemblablement aussi, il y a des intérêts économiques qui font qu'on a une position qui est une position ambiguë vis-à-vis des Turcs. Mais moi, je pense que ça traduit non seulement la faiblesse de la France, mais ça traduit surtout la faiblesse de l'Union européenne, qui est totalement incapable d'avoir une politique qui est conforme à ses principes. Donc, face au cynisme américain, les Européens sont incapables aujourd'hui de mettre finalement une politique qui soit une politique digne de ce nom, qui permette de protéger les Kurdes. Et finalement, ceux qui aujourd'hui s'en sortent sur le terrain de la manière la plus efficace, ce sont les Russes et les Syriens.
Pierre Jacquemin, pourquoi politiquement cet appel des victimes des attentats, cet appel de RIS, le patron de la direction de Charlie Hebdo, n'est pas repris politiquement en France ?
Parce que je pense qu'il y a une ambiguïté totale sur la question justement du conflit kurde.
C'est-à-dire qu'à gauche comme à droite, on est mal à l'aise avec cette question.
C'est vrai qu'il y a un malaise qui est général. Après, quand il y a eu l'appel notamment de la communauté kurde à Paris, en France, je pense que les organisations de gauche, que ce soit associatives, politiques, étaient présentes et se sont mobilisées. Il y a eu plusieurs rassemblements à Paris pour soutenir justement les Kurdes, qui demandent encore une fois pas grand-chose. Ils demandent juste une protection internationale, une protection de l'Union européenne qui ne sait pas répondre à ça. Et vous l'avez dit, Arnaud Benedetti l'a dit. Le problème en plus que ça soulève, c'est que la France est complice d'une certaine manière d'avoir remis en selle Bachar el-Assad en Syrie, Vladimir Poutine qui se retrouve à être le maître du jeu, et la Turquie qui se retrouve aujourd'hui grandie de cette affaire. Donc c'est la responsabilité de l'État français. Et je pense que là, pour la peine, les mouvements politiques d'opposition ont su justement dire que l'État n'avait pas été à la hauteur, le gouvernement français n'a pas été à la hauteur du conflit.
20h20 sur France Info, l'essentiel de l'info avec Justine Dinchet.
Emmanuel Macron rend hommage ce soir au sacrifice de ce militaire tué dans l'accomplissement de sa mission. Un soldat français est mort ce matin lors d'une opération au Mali. Un brigadier du 1er régiment de Spahis de Valence, un engin explosif s'est déclenché au passage de son véhicule blindé. Et 15 départements du sud-ouest et du centre de la France ont alerte météo ce soir. Alerte orange, la tempête Amélie est en approche. Elle devrait frapper la côte atlantique cette nuit avant d'entrer dans les terres jusqu'en Auvergne. Vent violent et vagues très hautes aussi au bord de l'océan. Une enquête ouverte notamment pour apologie du terrorisme à Saint-Denis sur l'île de la Réunion. Un homme d'une vingtaine d'années a été arrêté après qu'il se soit jeté sur une femme dans le hall du commissariat. Il lui a mis un couteau sous la gorge, a crié « Allah Akbar ». Le suspect a été désarmé sans faire de blessés. Une amélioration promise pour lundi par la SNCF sur l'axe Atlantique avec 9 TGV sur 10 en circulation. Ce week-end, on est toujours à 8 sur 10. La faute à une grève au sein d'un centre de maintenance d'Île-de-France. La SNCF espère un retour à la normale la semaine suivante. La finale du Masters 1000 de Paris-Bercy s'affronteront demain. Le Serbe Djokovic face au Canadien Shapovalov. Nadal a déclaré forfait avant sa demi-finale aujourd'hui en raison de douleurs abdominales. Enfin, en rugby, c'est la sensation de la journée. L'Afrique du Sud, vainqueur de la Coupe du Monde de rugby pour la 3e fois de son histoire. Victoire 32-12 face à l'Angleterre.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Saveria Rojec.
C'est un article publié par la revue britannique The Lancet. Elle recense pour la première fois les blessures causées par les fameux LBD, les lanceurs de balles de défense. Les chiffres sont parlants. Seulement 2 cas en 2016, un seul en 2017, mais 25 en 2018, l'année du début de la crise des Gilets jaunes. On va écouter la réaction du leader Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, qui lui-même a perdu un œil suite à un tir de LBD.
Moi, ça me choque pas parce que j'en suis victime et qu'aujourd'hui, j'en fréquente énormément de victimes qui ont été blessées par cette arme. En tout cas, ça ne fait que confirmer ce que tout le monde voit et ce que tout le monde aujourd'hui dénonce. Au moins, on a quelque chose de scientifiquement prouvé. Donc, il faudrait peut-être s'asseoir autour d'une table, commencer à réfléchir quant à l'utilisation et l'utilité de cette arme dans le maintien de l'ordre.
Arnaud Benedetti, c'est la première fois qu'on a des chiffres hein, sur des chiffres qui nous viennent d'une revue britannique, hein, des chiffres sur les conséquences de ces tirs de LBD, les blessures causées aux yeux par ces lanceurs de balles de défense. Jérôme Rodriguez, hein, qui lui-même donc a été blessé, demande un moratoire sur cette arme, l'arrêt complet de son utilisation. Est-ce qu'il a raison ?
Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la revue qui aujourd'hui met en avant ces chiffres est une revue un peu plus sérieuse. C'est le Lancet, donc c'est une revue médicale, scientifique, de référence, dont on ne peut difficilement discuter des conclusions en l'occurrence. Écoutez, 13 000 tirs hein, entre, je crois, novembre 2018 et mars 2019, c'est énorme, c'est considérable. Et aujourd'hui, quand même, faut-il rappeler que le LBD est considéré comme une arme qui est une arme de guerre. Donc, en l'occurrence, est-ce que on doit utiliser des armes de ce type pour maintenir l'ordre ? C'est une question qui est posée de manière récurrente depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Ce qu'on a vu quand même, c'est que on a eu depuis plusieurs mois une euphémisation de ce problème dans le débat politique et dans le débat médiatique, et progressivement, c'est en train de monter. Et je crois qu'en effet, aujourd'hui, cette étude pose problème. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'entendre quand même la réaction de la ministre de la Santé, qui est quand même en première ligne sur ce sujet, et savoir un peu ce qu'elle pense par rapport, je veux dire, à une étude qui a été menée par un certain nombre de ses confrères et collègues.
Arnaud Benedetti, je rappelle que l'ONU hein, avait rappelé la France à l'ordre en mars dernier, l'ONU qui demandait une enquête approfondie sur l'usage de ces lanceurs de balles de défense, sans succès. Pierre Jacquemin, pourquoi le gouvernement n'a jamais donné ces chiffres ? Pourquoi on les a maintenant par une revue étrangère ? Est-ce que il y a une volonté de ne pas être transparent.
Tout à l'heure, on parlait de liberté d'expression. Je pense que l'époque, en tout cas l'époque que l'on vit, ou en tout cas le parcours qui a été celui des Gilets jaunes, a montré que aujourd'hui l'État français était engagé dans une course justement à, parce qu'il y aurait des risques d'attentats, parce qu'il y aurait des risques d'insécurité, on prive les gens de certaines libertés. Je pense que ce contexte favorise aussi la privation de certaines libertés. Et ce que l'on voit aujourd'hui, effectivement, quand on fait le bilan des choses, on s'aperçoit qu'il y a eu plus de tirs de LBD pendant cette période des Gilets jaunes que depuis l'existence même des LBD il y a une dizaine d'années. Il y a d'autres choses que l'on ne sait pas. Il y a eu je ne sais combien d'arrestations, d'inculpations, de procédures judiciaires contre ceux qui se mobilisaient dans le cadre des Gilets jaunes, contre les Gilets jaunes donc avec des incarcérations immédiates. Il y a eu, on le sait, plusieurs éborgnés, plusieurs mains arrachées qui ont engagé des poursuites judiciaires. L'IGPN a été saisie. L'IGPN, on sait très bien que le temps de procédure, on n'a toujours pas les informations. On a appris il y a quelques temps que quelqu'un, dans une manifestation il y a plus de 7 ans, avait perdu un œil suite à un tir de LBD, il n'a obtenu justice que récemment. 7 ans de procédure, ça veut dire 7 ans de procédure contre l'État. Donc oui, je pense qu'il y a une fragilité, en tout cas, ou plus qu'un amateurisme, une volonté aussi de l'État de ne pas en faire de trop, parce qu'on sait que le contexte est explosif, et que donc du coup, sans doute, il y a une manière de cacher certaines informations, parce que cette information-là est évidemment essentielle.
Alexandre Germont, il y a une omerta sur ces armes.
Non, je crois qu'on est quand même... il faut mettre tout ça en perspective aussi. C'est-à-dire qu'on on voit ces chiffres qui sont considérables, hein, qui sont et puis irréfutables, puisque ça vient du Lancet. Mais ce n'est pas une omerta, puisqu'il y a des procédures qui ont été faites auprès de l'IGPN. Évidemment, c'est long, mais ça montre bien qu'on est en démocratie. C'est comme quand vous dites...
Il y a peu de procès qui aboutissent en faveur de ceux qui ont été victimes, justement, des tirs de LBD.
J'aimerais quand même rebondir quand vous dites qu'on on est dans une restriction des libertés. On ne restreint pas la liberté de manifester.
Votre droit de le penser, mais je pense que la démonstration...
Je peux aller jusqu'au bout.
Oui,
je vous remercie.
Alexia Germont.
Je pense qu'on est en revanche dans une vraie question sur les techniques qui sont utilisées. C'est-à-dire qu'on est dans les techniques de maintien de l'ordre. C'est ce que disait d'ailleurs Alain Boer, le criminologue, qui est nécessaire, en fait, qu'on ait une arme non létale qui permette de revenir au maintien de l'ordre. Quand on voit les violences qui ont eu lieu du côté des forces de police, elles ont besoin de ces armes. En revanche, elles ont évolué. Et c'est certainement là où les caractéristiques techniques de ces armes qui sont utilisées ne sont certainement plus
On est quand même un des rares pays démocratiques à les utiliser aujourd'hui. C'est bien le problème. C'est que finalement, il y a peu de pays aujourd'hui qui utilisent le MBD.
Certes, l'ONU avait fait un certain nombre de revendications et de pistes de réflexion, mais il faut aussi rappeler que le Conseil d'État, qui avait été quand même saisi par des opposants, a validé l'utilisation de ces armes. Donc...
20h27 sur France Info. On se retrouve dans quelques instants avec la trêve hivernale et le gouvernement qui annonce 14 000 places d'hébergement supplémentaires. Et puis le végétarien qui débarque dans les assiettes de nos enfants. C'est dès lundi dans les cantines. Et dans la deuxième partie des informés, mais tout de suite, la météo et le journal.
Je stresse pas tous ces bouchons, toi.
Depuis que j'ai fait ma retraite en ligne, je suis zen.
Mais ça a dû prendre des heures.
Non, sur mademandedereretraiteenligne.fr, c'est une seule demande pour toutes tes caisses de retraite 6 mois avant ton départ. Ça simplifie la vie.
Rendez-vous sur mademandedereretraiteenligne.fr. C'était un message de l'assurance retraite, votre retraite de la sécurité sociale.
Là, c'est la photo de mon anniversaire. J'avais 12 ans. Oh, mon premier flirt au bal du 14 juillet. La photo de mon mariage. Celle-là, c'était en mars, au dîner des anciens.
Forcément, un jour, tout s'arrête. Ne laissez pas mourir vos convictions. Quand vous faites un leg à Médecins du Monde, votre engagement continue.
Et là, c'est le docteur qui me soigne. Lui, c'est mon cousin Babou. Lui aussi, on le soigne.
Médecins du Monde, léguez-nous vos volontés. Demandez votre brochure sur leg.medecinsdumonde.org.
France Info Météo, avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Parce qu'anticiper vous ouvre de nouvelles perspectives.
Jean-Michel Golinski de Météo France.
La tempête Amélie va traverser progressivement les deux tiers sud du pays vers l'est entre la nuit prochaine et demain fin d'après-midi en s'accompagnant de vents forts, de pluies et ou d'averses orageuses marquées. Tous les phénomènes à caractère de risque sont indiqués en orange sur la carte de vigilance qu'il convient de consulter régulièrement. Dans la chronologie, de fortes rafales vont toucher cette nuit le littoral océanique, avec des pointes jusqu'à 140 km à l'heure sur les côtes, 110 dans l'intérieur. Le tout va s'accompagner de pluies soutenues et parfois de coups de tonnerre. Rapidement, en matinée, pluies marquées, vent jusqu'à 90 en pleine, 110 sur le relief, vont gagner les Pyrénées centrales et les régions du centre, avant de venir s'échouer sur les frontières de l'Est en fin d'après-midi. Notez que sur les Alpes et la Corse, le temps sera instable toute la journée avec de fortes précipitations d'orage, que sur la partie ouest, une fois le coup de tabac des premières heures passées, le vent va se calmer. Enfin, près de la Manche et au nord de la Seine, c'est là que l'on va trouver l'ambiance la plus calme.
(20h30 sur France Info, toute l'info avec Emmanuel Langlois. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Saveria, bonsoir à tous. La tempête Amélie s'approche donc des côtes atlantiques. 15 départements de l'ouest de la France en vigilance orange au vent violent. La tempête est la première de l'automne. Elle devrait toucher la façade atlantique en seconde partie de nuit. De fortes rafales de vent, des précipitations sont attendues jusqu'à 140 km/h pour les rafales, notamment sur la pointe du Médoc et les îles de Charente. Cela devrait s'améliorer demain en fin de matinée. Alors la Gironde se prépare. La préfecture a diffusé des conseils auprès des habitants comme limiter ses déplacements, ne pas sortir en mer, et elle demande aux maires d'assurer la sécurité des populations. C'est le cas à Arcachon, comme l'explique le maire Yves Foulon.
Nous prévenons la population par un dispositif qui s'appelle Tel-Mail, donc c'est un texto ou un mail que nous adressons à la population qui s'est inscrite sur ce dispositif pour la prévenir et l'inviter à fermer ses volets, à rentrer les meubles de jardin, à prendre tout un tas de mesures que eux peuvent faire à leur domicile. Deuxièmement, nous renforçons nos équipes municipales sur le terrain pour faire face à toutes les situations qu'on pourrait malheureusement rencontrer. Et puis troisièmement, nous fermons un certain nombre d'équipements publics, par exemple les jetées qui sont directement confrontés à la mer, et puis un certain nombre de parcs également. On est habitué, ça fait longtemps qu'il y a des coups de vent de temps en temps, mais qui restent dans une configuration dite classique à cette époque.
Ah, le maire d'Arcachon, Yves Foulon, un homme d'une vingtaine d'années, placé en garde à vue à La Réunion. Il est soupçonné d'avoir agressé au couteau une femme dans un commissariat de Saint-Denis en criant à la Akbar. Il n'y a pas de blessés, une enquête est ouverte notamment pour apologie du terrorisme. À Béziers, les près de 300 élèves de l'école primaire volontairement incendiés jeudi soir dans un quartier sensible pourront retourner en classe, mais pas avant 10 jours à partir du 12 novembre. Ils seront d'ici là répartis dans des écoles du secteur. Pour la reprise des cours après-demain, la mairie demande aux parents de garder leurs enfants. En cas d'impossibilité, une maison de quartier pourra toutefois les accueillir. La SNCF affirme que 9 TGV sur 10 circuleront sur l'axe Atlantique à partir d'après-demain lundi. Le retour à la normale est donc prévu dans les prochains jours. D'après la direction, le réseau était touché depuis une dizaine de jours par une grève dans le centre de maintenance de Châtillon près de Paris, où le travail a repris. À l'étranger, dans le nord de la Syrie, au moins 13 personnes ont été tuées par l'explosion d'une voiture piégée dans la ville de Tal Ayabyab, contrôlée par les forces turques. À 200 km de là, plus à l'est, des milliers de personnes ont manifesté à Qamishli, dominée par les Kurdes, pour dénoncer la présence militaire d'Ankara. Il est 20h33 sur France Info. Les informés, ça continue avec Saveria Rojek.
Les informés, Saveria Rojek.
De retour sur le plateau des informés avec Alexia Germont, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, Émilie Kovacs, journaliste fondatrice du média Ecopo, et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. La trêve hivernale entre en vigueur. Dans le même temps, le gouvernement annonce 14 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires. Cela va-t-il suffire? On en débat. Mais tout d'abord, on va écouter Julien de Normandie, le ministre du Logement. C'était cette semaine sur France Info.
Cet effort, il a été accru de manière extrêmement significative depuis 2 ans. En dépit de ces efforts, vous avez encore des milliers de personnes qui dorment à la rue. Alors, à partir de cette fin de semaine, on rentre dans ce qu'on appelle la période hivernale.
La trêve locative des expulsions, qui va durer 5 mois.
Exactement. Et dans cette période hivernale, pour prévenir des températures qui vont baisser, on redouble d'efforts. C'est-à-dire qu'on va ouvrir des places temporaires supplémentaires, 14 000 de plus. Le temps d'un hiver, et une partie d'entre elles d'ailleurs seront pérennisées à la sortie de l'hiver.
Émilie Kovacs, 14 000 places supplémentaires en plus des 146 000 places ouvertes toute l'année. C'est beaucoup, ou en tout cas ça paraît beaucoup, mais ce n'est pas suffisant.
Alors, ça n'est pas suffisant, surtout quand on sait qu'en France, je cite les chiffres du Conseil économique, social et environnemental, on compte 8,8 millions de personnes qui vivent en situation de pauvreté, dont 5 millions en situation de grande pauvreté. Donc, on est quand même très loin quand on cite les 14 000. Évidemment, tout le monde n'est pas concerné par le mal logement. Néanmoins, c'est quand même microscopique au regard du nombre de personnes touchées par la pauvreté. J'aimerais du coup parler de l'engagement de la France qui a signé la charte de l'ONU pour les ODD, les objectifs de développement durable, dont l'un d'entre eux est d'éradiquer la pauvreté en 2030. Je parle de ça parce que on parle de logement, de mal logement, mais derrière, il faudra bien, au lieu de traiter ces problèmes-là, traiter le fond du problème et la source du problème.
Il y a urgence sur ces questions de mise à l'abri et de logement. En 2018, 612 sans domicile fixe sont morts dans la rue. C'est 15% de plus sur un an. Les associations nous disent effort insuffisant, Pierre Jacquemin.
Effort insuffisant et surtout on a du mal à croire le ministre de Normandie quand il part. Je suis au moins content de constater qu'effectivement maintenant les chiffres semblent plus réels quand il explique qu'il y a plus d'un millier aujourd'hui de personnes qui dorment dans les rues. Ça veut dire qu'ils prennent un peu plus la mesure que lors de l'une de ses précédentes interventions où il avait expliqué qu'à Paris il y avait à peu près une dizaine de gens qui dormaient dans la rue, ce qui est évidemment sous-estimé. Mais le problème aujourd'hui c'est aussi le cynisme, c'est-à-dire qu'on sait que l'État est propriétaire de milliers et de milliers de mètres carrés partout en France et que donc ces bâtiments, il y a plus de 3 millions je crois. Il y a 3 millions de mètres carrés vides, vacants, disponibles aujourd'hui pour pouvoir faire du relogement. Et ça, aujourd'hui, l'État ne le fait pas. En plein cœur de Paris, la semaine dernière, un bâtiment appartenant à l'État où il y avait des gens qui squattaient, hein, qui squattaient sans doute illégalement, mais c'était un bâtiment vide en plein cœur de Paris, dans le 6e arrondissement, un immeuble vide depuis 15 ans qui appartient à l'État. Ça paraît totalement surréaliste. La mairie de Montreuil qui met à disposition un bâtiment pour reloger des gens qui sont dans des situations de précarité, de mal logement, l'État fait ordonner une expulsion. Donc à un moment donné, il faut aussi des... Au-delà des annonces, il faut aussi des gestes concrets. Et en plus de gestes concrets, on sait aussi que les mairies sont souvent engagées dans une lutte et un combat contre l'État sur la question de l'encadrement des loyers, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, il faut prendre le mal à sa racine. Il y a d'abord, un, la pauvreté des gens, parce que les gens n'ont plus les moyens de payer un loyer. Et deux, il y a aussi le fait de construire du logement. Et là, l'État a engagé une réduction des budgets qui construisent du logement social.
Pierre Jacquemin, vous parlez de gestes concrets, 14 000 places supplémentaires, ce sont néanmoins des gestes concrets.
Il y a beaucoup d'annonces concrètes comme celle-là.
Alexa Germont, on a le sentiment que cette question de l'hébergement, de la mise à l'abri, de l'accueil, c'est une sorte, pardonnez-moi l'expression, de tonneau des Danaïdes. Est-ce qu'il y a des solutions pérennes ?
Oui, alors c'est d'autant plus intéressant que c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé au sein du think tank France Audacieuse parce que on a la chance d'avoir un des cofondateurs du SAMU social qui travaille avec nous, le docteur Jacques Assin. Et là, en fait, sur le fond, ça revient à cette éternelle question à la fois médicale, sociale, éthique, savoir s'il faut convaincre ou contraindre. Et ça, parce que ces places d'hébergement, en fait, elles sont là pour la soirée, pour mettre les personnes, en fait, à l'abri. Il y a eu...
On n'est pas forcément dans le pérenne,
exactement, parce que avec l'arrivée du plan, des plans grand froid, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a à ce moment-là, si vous voulez, une mise en œuvre en commun pour pouvoir, notamment, préempter le fait que, quand il fait très froid, par exemple, les véhicules du SAMU social ne peuvent plus circuler librement et donc la priorité c'est de mettre à l'abri, mais en France vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un à se mettre à l'abri s'il ne le souhaite pas.
Arnaud Benedetti, il faut convaincre ou contraindre sur ces questions ?
Il faut convaincre d'abord, je crois que c'est absolument essentiel, plus que contraindre en l'occurrence. Mais si vous voulez, la question de la contrainte, c'est quand même ça reste une minorité fondamentalement. Je veux dire. Le problème, c'est quand on regarde les chiffres, je crois qu'il y a 1600 demandes par jour d'hébergement qui sont exprimées. Ça veut dire qu'on a multiplié par 3 en 4 ans ce type de demande. Donc ça veut dire qu'il y a une précarisation qui est croissante et que face à la précarisation croissante, en effet, les moyens de l'État ou les moyens de la puissance publique apparaissent insuffisants. D'ailleurs, toutes les associations qui sont sur le terrain le disent et le reconnaissent.
Alors, sans faire de procès. Je donne un chiffre record des expulsions en 2018, 36 000 personnes expulsées.
Voilà, et donc sans vouloir mettre en cause la bonne volonté de l'exécutif en la matière, je rappelle quand même que Emmanuel Macron en 2017 s'était engagé à ce qu'il y ait zéro SDF dans la rue à la fin 2017. Donc on est très loin de l'objectif aujourd'hui. Mais l'autre question, c'est qu'au-delà de la question d'urgence, c'est finalement réussir à faire en sorte qu'il y ait du logement durable pour ces gens qui sont en situation de très grande précarité.
Il faut changer de logique, Pierre Jacquemin, très rapidement.
Je pense qu'il faut changer de logique, mais surtout, il faut relancer la machine à construire du logement, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est problématique. Il faut que l'État réinvestisse dans le logement social. Il faut que les mairies qui décident de payer des amendes plutôt que de construire du logement social, je ne veux pas stigmatiser, mais on sait tous que Neuilly, par exemple, à Neuilly-sur-Seine, aujourd'hui, on préfère payer des amendes plutôt que de construire du logement social. C'est un problème qu'il faut régler.
20h40 sur France Info, l'essentiel de l'info avec Justine Dinchet.
Un militaire français tué ce matin par un engin explosif au Mali, annonce de l'Élysée ce soir. La victime âgée de 24 ans est un brigadier du 1er régiment de Spahis de Valence. Emmanuel Macron salue le sacrifice du militaire et exprime ses pensées vers ses camarades engagés dans les opérations au Sahel. Pour la première fois depuis la découverte du corps de Sophie Le Tan, sa famille s'exprime. Aucun mot pour décrire la souffrance ressentie, déclare la cousine de l'étudiante strasbourgeoise. Au sujet du principal suspect, Jean-Marc Reiss, Isère. Elle demande, je cite, que le coupable assume ses actes, arrête de nier et paye pour son crime. 31 clandestins pakistanais retrouvés à l'arrière d'un camion sur l'autoroute A8, découverte au péage de la Turbie, près de la frontière italienne dans les Alpes-Maritimes. Ils ont tous été remis aux autorités italiennes. Le chauffeur du camion, également pakistanais, a lui été placé en garde à vue en France. Des rafales de vent jusqu'à 150 km/h attendues cette nuit, c'est la tempête Amélie, la première de l'automne. 15 départements du sud-ouest et du centre de la France sont en alerte météo, alerte orange, dans un triangle reliant la Vendée, le Puy-de-Dôme et les Pyrénées-Atlantiques. En tennis, une finale Djokovic-Shapovalov demain au Masters 1000 de Paris-Bercy. Nadal a déclaré forfait quelques minutes avant sa demi-finale cet après-midi en raison de douleurs abdominales. Et puis en rugby, la passe de 3 pour l'Afrique du Sud, championne du monde de rugby pour la troisième fois de son histoire. Les Springboks ont battu l'Angleterre 32-12 ce matin.
France Info, et tout est plus clair.
20h-21h, les informés, Saveria Rojek.
Une nouveauté dans les cantines de nos enfants. Dès lundi, les cantines doivent proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine. C'est une des mesures de la loi Egalim, la loi agriculture et alimentation. On va écouter Gilles Perrol, il est adjoint au maire de Montsartou. Montsartou, c'est une des villes qui a fait le pari du 100% bio dans les cantines.
C'est d'abord cuisiner des légumes bruts de bonne qualité, et puis de bien les cuisiner, de bien les assaisonner. Et aussi tout l'enjeu éducatif tout au long du repas, mais aussi à d'autres moments. Je veux dire, quand on fait jardiner des enfants, quand on emmène des enfants à notre ferme municipale, qui voient les légumes, qui les récoltent, qui les plantent, eh ben, ils ont l'habitude de voir les légumes, donc ça leur fait plus peur, ils les mangent volontiers. Nous, il n'y a que 7% des gamins qui disent qu'ils mangent trop de légumes à la cantine de Montsartou, ils en ont tous les jours.
Émilie Kovacs, enjeu éducatif, nous dit Gilles Perrol. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'alimentation, maintenant, ça fait partie de l'éducation, et ça dès le plus jeune âge?
Absolument. On a vu et on voit encore les dégâts sur les feux d'Amazonie, en Amazonie, de l'exploitation, de l'élevage des bœufs. Et du coup, effectivement, tout ce qui est consommation de viande, on voit bien que c'est catastrophique. Donc, évidemment qu'il faut prendre le sujet dès le plus jeune âge. Et c'est très bien. Je suis ravie de voir que dans les cantines, on va pouvoir proposer ce choix, en tout cas.
Je sens Arnaud Benedetti un peu dubitatif. Non, est-ce que ça vous semble efficace? Est-ce que réellement nos enfants, entre un steak frites et une assiette de brocoli, ils vont choisir l'assiette de brocoli?
Écoutez, je peux pas vous répondre en l'occurrence. Moi, je sais ce que j'aurais choisi quand j'étais enfant, mais bon, ça ne regarde que moi en l'occurrence. Mais la réalité, c'est que finalement, oui, c'est vrai que c'est important d'éduquer les enfants à se nourrir de manière équilibrée et d'avoir les bonnes pratiques alimentaires. Mais en même temps, vous voyez bien, dans un environnement ou dans un univers où vous avez un marketing qui est extrêmement agressif et qui pousse de très nombreux enfants à se nourrir de manière beaucoup plus aléatoire. Donc on est pris finalement à la fois entre cette volonté d'imposer une sorte d'hygiène alimentaire qui est tout à fait louable et en même temps un fonctionnement, j'allais dire, des règles et des lois économiques qui poussent in fine les enfants à aller consommer de manière qui est parfois certainement plus déséquilibrée.
Alexia Germont, c'est un effet de mode, c'est le diktat de l'époque, j'allais dire.
Je ne sais pas si c'est le diktat de l'époque, mais en tout cas, ça aurait pu être intéressant d'aller jusqu'au bout du raisonnement, pour le coup.
C'est-à-dire ?
Et de faire cette initiative-là, qui est tout à fait louable, dès lors qu'on n'impose pas, mais on propose, on ouvre l'arbre des possibles, bien sûr. Et puis, en même temps, ce serait bien d'imposer l'étiquetage alimentaire, qui n'est pas rendu aujourd'hui obligatoire. Mais on voit bien que quand on fait ses courses, pour le coup, c'est déjà une première piste de réflexion, et pour les enfants aussi, c'est plus facile de s'orienter à ce moment-là vers du A, du B, plutôt que du C ou du D. Donc là, ça aurait été, pour le coup, quelque chose de plus pérenne.
Pierre Jacquemin, est-ce que c'est une véritable mesure de santé publique ?
Je pense que l'éducation à l'alimentation est extrêmement fondamentale, très importante, prioritaire même, parce que quand on sait qu'aujourd'hui un certain nombre d'enfants vont à l'école sans avoir mangé, sans avoir petit déjeuner, au moins assurer un repas équilibré à l'école me paraît extrêmement important. Après, se pose la question quand même aussi des inégalités. On sait très bien que d'une commune à une autre, la qualité même de ce qui va être servi dans l'assiette des écoliers va pas être la même, parce qu'on sait aussi que des communes sont plus pauvres que d'autres. Et il y a beaucoup de communes pauvres qui peuvent pas se permettre justement d'avoir accès à un circuit court qui pourra sans doute peut-être coûter plus cher à la collectivité. Et ça, c'est un véritable problème. Et moi, je ne peux que constater que de plus en plus d'écoles ont recours justement à des grossistes qui font de l'alimentation de grande quantité, et donc qui ne répondent plus aux exigences qui devraient être celles des circuits courts. Donc je pense qu'il y a deux choses. Il y a éducation à l'alimentation, mais il y a aussi accès à une alimentation qui est une alimentation issue d'un circuit court, issue d'une agriculture biologique, issue d'une agriculture durable. Et ça, je pense que c'est un autre chantier que le projet de loi alimentation est censé engager.
Et c'est à l'État de s'attaquer à ce chantier.
Je pense que c'est à l'État, mais surtout c'est à l'État de donner aux collectivités les moyens d'assurer une alimentation saine et digne pour tous les enfants de France.
Donc c'est à l'État de financer du bio dans toutes les cantines de France, Arnaud Benedetti ?
Je suis pas sûr que l'État en ait la volonté, surtout les moyens. Ça, c'est autre chose. Il y a aussi les collectivités locales qui doivent, en l'occurrence, pour ce qui concerne les écoles, les rassurer leurs responsabilités. Mais je rejoins ce que dit Pierre Jacquemin. Le problème aussi, c'est la question des inégalités. Les inégalités dans l'alimentation. On sait très bien que, finalement, l'alimentation saine, elle se retrouve, in fine, dans des catégories socioprofessionnelles qui sont, pour la plupart du temps, des catégories socioprofessionnelles plus. C'est une réalité. Donc, il faut véritablement avoir certainement une pédagogie, mais c'est très compliqué encore une fois, compte tenu de l'univers dans lequel nous vivons.
Émilie Kovacs, il y a une autre question également, c'est est-ce que les industriels sont prêts ? Est-ce que la gamme aujourd'hui du végétarien est assez étendue ? Pour répondre à cette demande.
Alors de plus en plus, effectivement, on voit des boucheries bio, des boucheries végétariennes apparaître un peu partout dans Paris. Donc oui, plus largement, je vois Herta qui a lancé des saucisses végétariennes aussi. Donc on voit que les industriels essayent, en tout cas, ils sentent que les gens mangent de moins en moins de viande et ils essayent du coup de grappiller des parts un peu partout.
Oui, enfin, mais si c'est pour remplacer par du soja, c'est pas forcément non plus ce qu'il y a de mieux pour la planète. Donc Pierre, il faut savoir raison garder.
Oui, je voulais réagir parce que c'est vrai qu'on voit bien que l'approche des élections municipales, ça va être un enjeu extrêmement important. On voit bien que plein d'élus locaux font justement la campagne sur justement ce qu'ils vont servir et ils vont valoriser le fait qu'il y a du bio. Et ça va être d'autant plus important qu'on sait que certaines mairies, il y a eu plusieurs polémiques. Je pense notamment aux mairies du Rassemblement National, ex-Front National, parce qu'ils ont été élus sur les listes de Front National, qui interdisent à des enfants justement l'accès à des cantines scolaires parce que leurs parents seraient au chômage ou parce que leurs parents pourraient leur permettre de manger. Donc je pense que l'enjeu justement de l'alimentation va être un enjeu fondamental en cas de prochaine municipale. Oui, c'est un enjeu politique et je pense qu'il va être réactivé notamment. Et c'est pas pour rien que le gouvernement ça là maintenant, à quelques semaines, à quelques mois des élections
municipales. Pour rester sur cette question de la santé publique, il faut rappeler que les nutritionnistes nous disent clairement que l'apport de viande n'est pas compensé dans un menu végétarien, Arnaud Benedetti.
Ben oui, c'est bien.
Donc il y a la mode.
Mais non, il ne faut pas tout confondre. Il y a le végétarien, il y a le bio, ce qui sont deux choses totalement différentes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une relation aujourd'hui à l'animal qui est en train de changer dans la société. Ça, je crois que c'est quelque chose de
Qu'est-ce
très important.
Qu'est-ce que ça
important.
Dit de notre société, de notre époque?
Ça veut dire qu'en tout cas, il y a des courants dans la société qui sont des courants qui, aujourd'hui, considèrent que l'animal doit être traité comme un être sensible. Et donc, à partir de là, regardez ce qui se passe sur l'expérimentation animale, c'est très intéressant aussi. Vous avez des tas de débats sur l'expérimentation animale, des tas d'associations qui remettent en cause l'expérimentation animale, à tort ou à raison, à mon avis à tort. Mais en l'occurrence, c'est cette sensibilité qui est une sensibilité aujourd'hui qui court dans la société et qui fait que ce type de question va de plus en plus monter. Ça me paraît assez évident.
Alexia Germont, l'alimentation de nos enfants, enjeu des élections municipales ?
Oui. Tout ce qui touche au plus près, finalement, les électeurs est un enjeu pour la classe politique, c'est très clair. Et l'alimentation, ce qui concerne en priorité les citoyens, c'est l'alimentation, la santé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la sécurité vient beaucoup plus loin dans la liste. Donc là, on touche vraiment au quotidien et en plus à travers les enfants. Donc vous avez toutes les conditions qui sont réunies pour que ça soit un sujet qui soit investigué par la classe politique.
20h50 sur France Info, l'essentiel de l'info avec Justine Dinchet.
C'est la première tempête de l'automne. Amélie approche ce soir la côte atlantique. 15 départements du sud-ouest et du centre de la France sont en alerte météo, alerte orange. Des vents pouvant aller jusqu'à 150 km/h sont attendus cette nuit, avec des vagues très hautes dans l'océan. Emmanuel Macron exprime ses condoléances. Un soldat français de 24 ans est mort au Mali ce matin, tué après le déclenchement d'un engin explosif au passage de son véhicule blindé. La victime est un brigadier du 1er régiment de Spahis de Valence. Florence Parly, la ministre des Armées, annonce qu'elle se rendra bientôt au Mali. Un homme d'une vingtaine d'années en garde à vue après une agression au couteau dans le hall du commissariat de Saint-Denis sur l'île de la Réunion. Il a menacé une femme en criant « Allah Akbar » d'après le procureur. Enquête ouverte notamment pour apologie du terrorisme. La Turquie menace de renvoyer les djihadistes capturés en Syrie dans leur pays d'origine. « Nous ne sommes pas un hôtel pour les membres de Daesh », déclaration du ministre turc de l'Intérieur qui déplore l'inaction des Européens. La SNCF promet du mieux à partir de lundi sur l'axe atlantique avec 9 TGV sur 10 en circulation. La faute à une grève au sein d'un centre de maintenance d'Île-de-France. 8 TGV sur 10 roulent ce week-end. En football, 12e journée de Ligue 1, c'est la mi-temps sur 4 terrains. 1-0 entre Amiens et Brest, Angers et Strasbourg et Metz et Montpellier. 1 partout entre Toulouse et Lyon. Le match entre Nîmes et Rennes a lui été reporté à cause de pluies diluviennes. Et tout à l'heure, Marseille a battu Lille 2-1.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Saveria Rojec.
La Toussaint, journée de recueillement pour la majorité des Français, journée d'affluence sur la tombe de Jacques Chirac. Le cimetière du Montparnasse à Paris ne désemplit pas. Tous les visiteurs font un arrêt devant la sépulture de l'ancien président disparu il y a un mois. On va écouter justement un de ces visiteurs.
Quand même une personnalité assez importante, qui a fait quand même beaucoup de choses pour la France.
Vous êtes un peu ému ou...
Oui, quand même, oui. Malgré tout, oui.
Qu'est-ce qu'elle vous inspire, la tombe de Jacques Chirac, justement ?
Elle est très simple. C'est ça qui est bien, s'il n'y a pas de tralala, elle est très simple. Elle est tout à fait à l'image de ce personnage.
Quand il a senti cet engouement avec ce slogan « manger des pommes », il est rebondi sur ce slogan « manger des pommes », ça a fait une espèce de cohésion, ça l'a rendu populaire et il est remonté complètement dans les sondages et il a gagné les élections. On s'est rendu compte que c'était quelqu'un d'humain.
Son côté séducteur, j'aurais pas dit non à 4 heures avec une compote de pommes.
Avec une compote de pommes. Alexia Germont, qu'est-ce que ça dit de l'époque, cette affluence sur la tombe de Jacques Chirac ?
Ça dit d'abord que là encore, on est dans les symboles. On a un attachement aux personnes disparues. D'ailleurs, on voit bien que ça fait partie des traditions hein, de notre société. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas étonnant. Il suffit d'aller dans les territoires pour voir que vraiment il y a une affluence dans les cimetières le jour du 1er novembre. Bon, donc au-delà de ça, ce que je trouve très intéressant avec ce pèlerinage sur la tombe de Jacques Chirac, c'est que c'est un peu un pèlerinage sur un moment passé. Finalement, c'est la classe politique d'un autre temps, peut-être l'envie d'une France qui était à l'époque moins clivée. On a complètement occulté finalement ce qu'a fait Jacques Chirac ou ce qu'il n'a pas fait. Ça, ce n'est pas le sujet, mais sur cette France qui a disparu, cette France évanescente qu'on a envie finalement de retrouver à travers
son personnage.
C'est la stature d'un homme présidentiel.
Arnaud Benedetti, Alexia Germont nous dit le symbole également que ces pommes que les Français déposent sur la tombe de Jacques Chirac.
Oui, alors l'événement est très récent, ce qui explique vraisemblablement avec l'arrivée de la Toussaint qui est aujourd'hui ce type de focus qui est fait sur la sépulture de Jacques Chirac.
Non, mais c'est surprenant. Les Français déposent des pommes sur la tombe de Jacques Chirac comme ils déposaient des tickets de métro sur la tombe de Serge Gainsbourg.
Oui, parce qu'il y a un mythe Chirac qui est lié. D'ailleurs, une des dames qui est interrogée par l'un de vos journalistes le dit. Il y a un mythe Chirac autour notamment de sa campagne de 95. C'est-à-dire quand il est au fond du trou, que tous les sondages le donnent battu, que la majeure partie de son groupe parlementaire est passée avec armes et bagages chez Édouard Balladur, Jacques Chirac va renaître de ses cendres de manière finalement assez inattendue, grâce d'abord quand même à une alliance politique avec Philippe Séguin et Alain Madelin qui l'a quand même pas mal aidé à ce moment-là, il faut jamais l'oublier, il faut revenir aussi parfois aux choses concrètes, et au fait qu'il a un candidat, face à lui, Édouard Balladur, qui n'arrive pas à imprimer assumer dans la campagne. Donc, il ne jamais oublier aussi le rôle des guignols dans l'image de Jacques Chirac en 95, qui l'ont considérablement popularisé.
Émilie Kovacs, c'est aussi l'héritage d'une tradition judéo-chrétienne, cette affluence sur la tombe de l'ancien président.
Ça dit beaucoup de choses, effectivement, là-dessus. Alors, est-ce que les pommes sont bio, pour faire le lien avec le sujet d'avant? On ne sait pas. Voilà, je crois qu'effectivement, on est dans une période où on rend hommage aux morts, à nos morts. C'est très symbolique, effectivement, comme on l'a dit.
Pierre Jacquemin, cet engouement pour les morts, ce respect des morts en ce jour de la Toussaint, c'est une tradition, effectivement, judéo-chrétienne dans notre pays?
Oui, et vous avez raison de poser la question de savoir ce que ça raconte aussi. C'est vrai que ça raconte aussi une tradition, une histoire, et qui fait que les Français sont attachés à commémorer leurs morts, à commémorer... À être en famille, et ça me fait réagir suite notamment, enfin ce contexte-là de ces journées fériées me fait réagir au sens où cette semaine il y a eu la polémique, vous savez, sur l'ouverture des magasins qui devraient être ouverts en permanence et qui va finalement aussi empêcher ce type de mobilisation, ce type de moments où on se retrouve entre amis, entre familles, où on pense aux morts, et je pense que c'est
pas forcément, c'est la société, nous sommes samedi,
non, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui la société qu'on est en train de construire se déconstruit, en tout cas l'héritage, les traditions qui ont pu être, alors je vais passer pour un gros réac en disant ça, mais je crois que c'est des moments qui sont des moments importants. Certes, c'est des moments judéo-chrétiens parce que il y a énormément de jours fériés qui sont liés à la chrétienté, mais ce que je veux dire aussi, c'est que ce sont des habitudes plus que des coutumes religieuses avant tout, et ce sont des moments aussi où les gens ne travaillent pas, où les gens se retrouvent entre eux, où ils ne consomment pas, et je pense que ce qui est en train de se construire à travers justement ce qui a été annoncé cette semaine sur la possibilité d'ouvrir des magasins en permanence 24/24 ne me paraît pas être un besoin vital et qui va à rebours justement de la société qu'on avait construite justement sur l'être ensemble, en fait.
Pierre Jacquemin, très rapidement, Arnaud Benedetti, la tradition, vous qui êtes d'origine corse, la tradition du souvenir des morts, du respect des morts, elle se perd aujourd'hui ?
Je ne suis pas sûr qu'elle se perde. La relation à la mort a considérablement changé. On ne vit plus la mort, si je puis dire, comme on la vivait il y a 40 ans et 50 ans. La tradition du souvenir, si elle se maintient, d'ailleurs, la preuve, vous voyez l'affluence dans les cimetières au moment du week-end de la Toussaint, qui n'est pas spécifiquement français, qui est quand même, il faut le rappeler, une fête qui, court sur toute la chrétienté.
20h57 sur France Info. Merci à nos informés, Alexia Germont, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, Émilie Kovacs, journaliste fondatrice, rédactrice en chef du média Ecopo, et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. On se retrouve demain pour les informer. Bonne soirée sur France Info.